11h35, vous écoutez France Culture et Place de la Toile en compagnie ce matin de Giuseppe Longo, qui est logicien épistémologue, qui est directeur de recherche au CNRS en poste à l'école normale supérieure d'Ulm, de la rue d'Ulm, dans le département informatique. Dans la première partie, nous avons parlé de la manière dont l'informatique était née de problèmes théoriques que se posaient les mathématiques. Nous avons aussi discuté de la manière dont les réseaux posaient des questions aux mathématiques et changeaient bien des choses à l'organisation et la diffusion de la connaissance. Mais dans la deuxième partie, nous allons parler de questions qui, bien qu'elles soient abordées par vous, Giuseppe Longo, depuis l'épistémologie, depuis les maths aussi, sont plus directement politique. Nous allons parler de finances et de la manière dont, je le formule comme ça de façon un peu simple, l'alliance des réseaux et des mathématiques a profondément bouleversé la finance avec toutes les conséquences observables à chacune des crises et dans le fonctionnement permanent du monde de la finance. Avant, il faudrait peut-être en revenir encore une fois à des questions peut-être un peu théoriques et historiques, à un travail dont on a déjà parlé ici assez rapidement pour l'un de ses aspects, qui est le travail de Clarisse Ehrenschmidt sur les formes d'écriture, puisque parmi les trois révolutions scripturales, disons, qu'elle identifiait, Clarisse Ehrenschmidt identifiait évidemment l'invention de l'écriture, puis en dernier lieu, il y avait le code informatique comme nouvelle forme d'écriture, et au centre, l'écriture monétaire frappée, l'écriture arithmétique frappée. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ça, Giuseppe Longo, et montrer en quoi est-ce que cette nouvelle écriture monétaire réticulaire, celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que l'argent circule sur les réseaux, change quelque chose à ce qui avait été pendant des millénaires le rapport de l'homme à la monnaie.
Ben, tout d'abord, ces grands passages ont toujours été très importants. L'invention de la monnaie, qui se fait évidemment graduellement, trouve vraiment son moment haut, sa complétude en Grèce. On est au 6e, enfin du 7e siècle avant Jésus, c'est Crésus, hein, c'est le moment où tout est rendu monnaie. Hein. C'est l'invention d'une monnaie qui a un contenu en or, mais garantie par le visage du roi. En plus, c'est intéressant, la notation de la valeur est faite de façon typiquement grecque. Ce sont des images, des figures géométriques, carrés, triangles, cercles, que l'on associe à de la valeur. Ça, je l'ai appris du remarquable livre de Clarisse Ehrenschmidt, Les Trois Écritures, et bien d'autres choses sont là-dedans. Donc, ces tournants-là, pourquoi est-il important? Ben, c'est l'abstraction par rapport au troc, disons, même. Évidemment, les passages sont graduels. Par rapport au troc, l'effet qu'il y ait un moyen de change qui en soi n'est garanti que par cette image du roi, c'est quelque chose de très abstrait. Mmh. N'importe quoi a une valeur, une valeur en or. C'est ça qui pour la fable de Crésus, que tout ce qui touche devient de l'or, puisque c'est la valeur implicite qui est rendue explicite et visible. Cet or que, pour l'anecdote, et Crésus sort du fleuve Pactole.
Pactole, oui,
est une nouveauté très importante. Mm. Ce n'est pas au hasard qu'en même temps en Grèce naissent la philosophie et les mathématiques.
Hein. Et la démocratie.
Pardon?
Et la démocratie.
Et oui, aussi. C'est la discussion sur l'agora. Ouais. Mais enfin, l'habitude à l'abstraction, la pratique de l'abstraction. Évidemment, il y a un autre passage très important, c'est l'invention de la monnaie papier. L'écriture sur un bout de papier, des quantités énormes. Hein. Mm. Évidemment, avec une correspondance théorique avec la monnaie métallique détenue par le banquier. Mais enfin, cette correspondance, elle est faible. Parfois, il y a des arnaques, il y a des erreurs. On écrit beaucoup plus de ce qu'on a, ou plutôt on le donne en sachant que ça prendra du temps pour que la lettre de crédit aboutisse. On l'utilise plusieurs fois, c'est normal. Le manque de retour de crédit, hein, des gens qui se font prêter de l'argent, puis ne le rendent pas, disant bah, « après tout, c'était du papier ». Ce n'est pas facile de comprendre l'abstraction de ce morceau de papier qui ne vaut rien et qui peut valoir des montants énormes, puisqu'on peut écrire n'importe quoi. La moindre chose, c'est le changement radical de la rapidité de circulation. On peut faire circuler des quantités immenses d'argent en un rien. Hein. Mmh. Et cette histoire de la rapidité, qui sera importante tout à l'heure, sur ce que je vais dire, n'est pas moindre, hein, puisque ça change l'économie, cette vitesse. Mais vous savez, c'est un peu partout comme ça. Si pour construire un bâtiment, il faut 100 ans ou il faut un an, disons, le Moyen-Âge par rapport à aujourd'hui, ce n'est pas une petite question de temps, ça change la vie des gens.
Bien sûr.
Ça change la sociologie et l'urbanisme. Non. Donc, cette histoire des vitesses dans des structures qu'au moins ce sont des systèmes dynamiques, au moins, est centrale. Hein. Ce qui doit être clair, que ça peut être autrement fourvoyant, ce n'est pas que les billets du 14e et 15e siècle à Florence, où ces lettres de crédit sont inventées.
Pas loin de chez vous, Giuseppe Longo.
Tout à fait. Et ce n'est pas qu'ils remplacent cet équivalent à la monnaie métallique, à la monnaie frappée. Non, c'est une autre chose. Mmh. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute au symbolique, à l'invention humaine. Et ça donne ces effets économiques qui seront le début d'une renaissance, d'une croissance économique toute nouvelle. Et maintenant, nous avons une troisième phase, au moins autant révolutionnaire. Cette monnaie électronique est réticulaire. Cette écriture formelle dans mon temps, sur l'écran, qui est accessible et visible, si l'on veut, partout, qui s'échange avec la vitesse de la lumière sur un câble, enfin, de l'électricité sur un câble.
Je vous interromps une seconde, parce que pourquoi est-ce que ça, c'est plus révolutionnaire que la carte de crédit? Parce que la carte de crédit, c'est une sorte de prolongement du billet.
Non, évidemment, la carte de crédit, en partie, c'est prolongement, mais la carte de crédit telle qu'elle est utilisée aujourd'hui ne serait pas possible sans les réseaux. Les crédits locaux, c'est une chose, mais je ne peux pas démêler. Évidemment, la carte de crédit a aussi un sens, et c'est une autre forme d'autonomie d'un signe par rapport à son contenu, mais encore, c'est une autre forme qui entre dans le cadre de l'analyse des réseaux.
Alors, cette monnaie électronique et réticulaire, en quoi est-ce qu'elle est révolutionnaire selon vous?
Par exemple, dans chacun de ces passages, il y a une révolution qui est aussi une révolution symbolique. Vraiment, c'est une sémiotique qui change l'essence des rapports humains qui sont fortement influencés par cette richesse d'échange. Pensez par exemple le passage à la monnaie papier, la possibilité de l'inflation qui était très modeste auparavant. Et qui n'existait pas au moment du troc. Et il y a avec la monnaie papier, c'est un enjeu qui deviendra dans l'histoire de l'homme des derniers 4-5 siècles, très important. Qu'est-ce qui se passe avec la monnaie électronique et réticulaire? Et il y a d'autres formes de changement. Encore une fois, elle s'ajoute, cette monnaie, mais pas simplement un signe qui remplace un autre, puisqu'elle est très originale. Tout d'abord, un problème de vitesse, ou comme je disais tout à l'heure, et les aspects de modélisation mathématique, c'est-à-dire l'effet que on puisse décrire la situation du monde du point de vue, par exemple, des taux d'une façon parfaitement abstraite, totalement mathématique, qui, à son tour, va influencer les taux.
Je vais expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour, disons, dans l'influence. C'est pas simplement les mathématiques qui servent à décrire le monde d'après les taux, mais c'est que du coup, cette description elle-même va influencer les taux, c'est ça?
Oui, dans le sens qu'il y a eu dans ce monde de la finance des remarquables applications mathématiques. Par exemple, l'invention des produits dérivés, c'est une histoire des mathématiques.
En quoi?
On a commencé même par dérivé qui était simplement la dérivée dans le sens des mathématiques.
Dérivée première et seconde,
puisque ce sont des attentes. On voit comment ça va et ça va aller. La dérivée permet de dire quelle sera. La dérivée seconde est un indice du gradient. Et cela était une innovation remarquable puisque ça permettait, après la crise de 71, de 73, donc le décrochement du dollar de l'or et puis la montée des prix des matières premières, la divergence des cours de change entre les monnaies, ça permettait d'assurer, donc en faisant une estimation de la variation des taux, permettait d'assurer. Donc ça avait un sens spécifiquement concret, mais il y a pas mal de mathématiques. Il y a eu, dès le début, beaucoup de mathématiques dans cela. Mais qu'est-ce que ça a produit? Par exemple, on peut acheter un titre d'assurance sans posséder le bien. Je peux m'assurer sur la maison de mon voisin sans en avoir la propriété. Donc, tous les soirs, en entrant, je peux espérer dans son incendie, si vous voulez, puisque ça me va rapporter. C'est un peu le jeu de Goldman Sachs avec la Grèce. Ils ont prêté de l'argent. Après, ils ont émis des titres d'assurance et même des titres d'assurance sur les assurances qu'ils ont vendues et qu'évidemment, face à une crise d'un État, probablement avec des faiblesses structurelles du point de vue de la gestion, ça leur a permis de faire énormément d'argent sur une attente qui est changée.
Et pourquoi, Giuseppe Longo, en quoi ça c'est permis par les réseaux?
Puisque cela, on peut le faire seulement quand on a une rapidité des circulations, quand on couvre le monde d'un seul coup par les réseaux des écrans où ces valeurs sont mises. Autrement, si on reste en local, on n'a pas la puissance d'échange. Mais ce n'est pas seulement ça, puisque les réseaux permettent des niveaux d'interaction fortement non linéaires. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Ouais. C'est-à-dire, quand il y a plusieurs agents qui interagissent, plusieurs champs de force, il y a des effets, des résonances qui s'établissent entre eux, qui donnent, par exemple, des problèmes mathématiques de divergence.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Des sommes qui divergent, qui vont à l'infini. Des sommes des séries qui vont à l'infini. C'est un problème qu'il y a très souvent d'un système non linéaire de résonance. Ça a été découvert par Poincaré.
Donc on rejoint encore des questions de
là, c'était l'analyse
de théorie mathématique.
Des systèmes dynamiques, des systèmes planétaires. Mais ces effets des résonances donnent des sommes des séries divergentes. Et quand sur l'écran, l'effet qu'on a sur quelqu'un qui est sur quelqu'un d'autre, qui prête à quelqu'un d'autre, et on fait des cercles qui entrent en résonance, on voit la somme de la série qui diverge. Mais quand cette somme est une somme d'argent sur l'écran, on dit, oh là là, ça augmente la valeur. Non, c'est un phénomène mathématique. Et puis, tout d'un coup, ça casse la gueule totalement. Donc, ça, puisqu'il est détaché, totalement détaché d'une valeur monétaire, laissons tomber l'or. Donc, voilà des effets des résonances qui sont possibles seulement sur des structures de ces genres, avec ce jeu complexe entre un produit et tous les produits qu'on peut dériver de ce produit. Du point de vue logique, il y a comme des situations qu'on appelle mal fondées, c'est-à-dire des suites mal fondées sous ces formes des récessions infinies, c'est-à-dire quand on entre en circularité. Et puis, évidemment, puisqu'il s'agit d'une activité humaine et pas seulement d'une abstraction mathématique, tôt ou tard, quelque chose se passe sur le monde. Et, puisque ces phénomènes de boule, largement dus à cette forte résonance mathématique, les effets de modélisation, etc., d'invention mathématique, ont eu un effet. Dans quel sens? Ils ont servi comme aspirateur. Hein, quand on voyait ces sommes d'argent diverger, augmenter, les gens se
sont mis effectivement à intervenir sur ces marchés, ouais, bien sûr.
Voilà. Et donc après, on en connaît les conséquences. Ouais. Surtout quand ça a marché par voie de la dette privée. Qui a induit, après, le phénomène que nous connaissons, des retombées sur la dette publique.
Et juste, excusez-moi, mais là, je vais poser une question tout à fait bêtasse. Mais cette alliance, les mathématiciens, si on pose ça du point de vue moral, sont parfaitement coupables de tout ça?
Bon, je ne veux pas me prononcer sur ça. Il y a pas mal de collègues qui font des excellentes mathématiques de la finance. Enfin, ils les payent même beaucoup pour cela. Ben, le président de l'Université Dauphine a dit clairement qu'il va augmenter les inscriptions, le coût des inscriptions, puisque ceux qui sortent diplômés de Dauphine à partir de maths et mathématiques et financières gagnent énormément. Donc, ce sont des critères.
Donc, c'est ce qui lui permet d'augmenter.
Oui, ce sera un modèle pour tous les présidents d'université dans leur autonomie et d'avoir de plus en plus de maths des finances, si possible seulement des maths des finances, puisqu'évidemment, ça enrichit. Ouais. Un autre aspect absolument original, c'est la question de l'arbitrage. Hein. C'est-à-dire l'activité boursière qui consiste à contrôler des taux, des attentes, des valeurs sur tout le réseau du monde et grâce à des programmes, et vendre et acheter en quelques secondes, s'il y a des programmes informatiques en quelques millièmes de secondes, on vend et achète. Un physicien italien, un ami italien me disait c'est comme produire de la chaleur de la fluctuation thermique. Hein. Tous les corps ont une fluctuation thermique qui évidemment ne permet pas de produire de la chaleur, mais là, des oscillations sur une valeur qui, en moyenne, est constante, permettent, grâce à l'arbitrage, de produire des valeurs numériques de la monnaie électronique. Il y a toute une théorie qui dit il y a le non-arbitrage, donc c'est pas vrai, on produit pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est des valeurs électroniques qui changent toutefois la structure de la finance. Et pourquoi la change-t-elle? Pour cet effet des rétroactions des modèles. Il y a des analyses des taux, des analyses comparatives qui est faite par des systèmes qui s'appellent surface de corrélation. Surface de corrélation des taux dans les temps et dans l'espace.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça, des surfaces de corrélation?
C'est vraiment des fonctions mathématiques qui on peut visualiser à plusieurs dimensions sous forme de surface qui corrèlent tous les taux du monde. Hein. Et ça existe depuis au moins 10 ans, voire plus peut-être. Mais au cours des derniers 10 ans, ces surfaces de corrélation ont changé. Pourquoi? Ben, elles étaient très irrégulières. Elles ont été lissées ou en tout cas, elles ont beaucoup changé. Pourquoi ? Puisqu'elles existent. Puisque cette modélisation des attentes modifie les attentes. C'est ça la différence radicale pour laquelle la pensée classique et néoclassique est totalement insuffisante. Et la classique et néoclassique en économie, mais ressemble à la pensée classique en physique. C'est-à-dire, en physique, depuis Newton, on modélise le système solaire. Mais la modélisation mathématique ne change pas le système solaire.
Bien sûr. C'est pas parce qu'on observe que ça change.
En physique quantique, ça arrive. Ça, c'est intéressant. Mais c'est différent. Ça arrive puisqu'il y a une interface classique, l'instrument de mesure, avec la microphysique. Et ça constitue un nouvel objet. Le quanton étant constitué de l'expérience. Ben, il y a quelque chose de similaire, mais à un niveau purement mathématique. Comme je disais tout à l'heure, ces surfaces d'écolération, l'activité d'arbitrage change simplement puisque le fait de le faire de façon mathématique, modifie ce réel sous-jacent qui lui-même est entièrement mathématique. Donc nous sommes face à une nouveauté. J'ai l'impression, quand j'entends quelqu'un comme le gouverneur de la Banque centrale, M. Trichet, il y a quelque temps à la télé, ils sont totalement dépassés, mais pas... Pas, ils ne sont pas compétents, ils sont des gens très compétents. Mais ils développent encore des théories, par exemple Milton Friedman, qui ont 40 ans, qui traitent de la monnaie est frappée, c'est leur production, et négligent totalement ce qui était en train de se passer sur ces marchés, puisqu'ils disent que ça va aller à l'équilibre tout seul. Je n'ai fait que de mentionner des situations de divergence. En plus, même quand on est à l'équilibre, ça peut être un équilibre instable. Mais surtout, ce sont des systèmes loin de l'équilibre, dissipatifs, même pas stationnaires. Mais encore une fois, ce n'est pas l'incompétence. C'est que ces gens nous ont dit « Attention à la dette publique, ça va augmenter de 1%. » Et puis, tout d'un coup, ils se sont trouvés avec, au lieu de 60%, 65% de la dette publique, avec 400, 500% de dette privée, comme aux États-Unis ou en Angleterre, qui, dès que la boule a éclaté, a été réversée en grande partie
en dette publique.
Et après, ils nous disent, sur ça, Draghi, le gouverneur de la Banque d'Italie, une personne très compétente, qui va peut-être être le prochain président de la Banque européenne, est très compétent. Il était ancien PDG de Goldman Sachs Europe, donc...
Donc hyper compétent.
Ah oui, ces gens-là. C'est une structure comme jamais dans l'histoire qui a produit autant d'argent pour si peu de monde. Ce sont des choses formidables. Il a dit très clairement, la semaine après la faillite de Lehman Brothers, il faut réduire les dépenses publiques. Il faut casser les services publics. Non, puisqu'il faut maintenant se charger de la dette publique, de la dette privée. Et c'est une politique claire.
Ce que vous êtes en train de nous dire là, Giuseppe Longo, c'est que ces gens n'ont pas pris acte des changements qui pour des changements de la forme même du monde de la finance, en partie par une non-vision mathématique des choses. C'est ça, si je comprends bien ?
Non, pensez-vous, ils ont des gens très compétents là-dedans. Mais il y a des amonts épistémologiques, des amonts philosophiques qui disent que ces systèmes, justement puisqu'ils sont parfaitement fluides, les systèmes des réseaux électroniques et de la monnaie, sans aucune friction, ils vont atteindre et s'autorégulent. C'est ça leur théorie. Donc nous occupons de la stabilité de la monnaie frappée et des formes associées, évidemment bancaires. Ces réseaux, grâce à la parfaite fluidité, justement, puisqu'on ne met pas de lien, de friction et tout ça, vont atteindre l'équilibre. Donc, nous, on ne s'occupe pas. Puis, paf, évidemment, ils ont aussi l'autre aspect théorique. Milton Friedman le dit très bien, « too big to fail ». Oui, quand c'est trop grand, alors, évidemment, il faut socialiser les pertes.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on utilise du coup des outils mathématiques et en réseau pour contrôler ? Parce que là, on est dans on pourrait imaginer une utilisation réversible de tout ça.
Ben, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a un problème de liberté de la circulation pour la démocratie des idées et la possibilité de contrôle policier. Mais non, c'est tout à fait analogue. On a inventé des réseaux parfaitement plus fluides pour la monnaie électronique et réticulaire, avec ces effets que je disais l'heure. Eh bien, la puissance même de l'informatique et des mathématiques permet de mettre des frictions, de mettre des cloisonnements. Mais alors, ce sont des choix qui n'appartiennent pas à moi à juger, ce sont des choix politiques, puisque quand Obama propose un cloisonnement qui reprend celui de Roosevelt, la loi Glass-Steagall de 33, c'est-à-dire faire la différence entre banque de détail et banque d'affaires.
Bien sûr, ouais.
La Commission européenne, et personne n'en discute, la Commission européenne a rejeté cette proposition d'Obama qu'on peut faire seulement au niveau international. C'est-à-dire il y a un préjugé idéologique qui ne fait pas avoir. Non, plutôt, évidemment, maintient ce mythe néoclassique comme, encore une fois, si on était en train de modéliser une objectivité type le système planétaire qui est là et qui va se autoréguler en considérant que le système solaire lui-même, il n'est pas stable. Mais enfin, c'est une autre question. Donc, justement, ces formes de contrôle que on peut faire dans la police, malheureusement, dans les États où il y a une situation d'autoritarisme, peuvent s'exercer en introduisant une taxe sur les transactions. L'informatique peut très bien contrôler.
Bien sûr, c'est qu'on pourrait imaginer que, effectivement, un des obstacles, si c'était le principal, il aurait déjà été levé, qui était à des taxes sur les transactions, pouvait être justement la capacité de les observer. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable, quelque chose comme ça, tout à fait très facilement faisable.
Oui, ouais, je ne sais pas si facilement, il y a évidemment du travail informatique et mathématique à faire, mais certainement il est faisable comme les collègues allemands. Ces choix, évidemment, sont en amont, mais on est face à des principes. Revenons à la question de l'analyse des principes, qui est, disons, la question épistémologique qui se pose.
Pour finir là-dessus, parce qu'on a bien...
Qui laisse, évidemment, le principe au cœur de ces genres de choix politiques. Ce mythe de l'objectivité économique détaché et qu'il analyse comme un système planétaire, en oubliant que c'est vrai, c'est des maths, mais on est en sciences humaines, et ça c'est normal. C'est-à-dire, si on fait une politique sociale, ça change la société. C'est-à-dire, la proposition sociale, ça modifie la société elle-même. Et on est dans ce contexte, mais le jeu mathématique. Donc, c'est à inventer, c'est à comprendre. Hein. C'est ça la nouveauté absolument remarquable, le défi. Et d'une part, évidemment, il y a l'autre principe fondamental, c'est de dire... Il est inacceptable que l'argent du contribuable aille directement à l'enseignant, à l'infirmier, au médecin, au chercheur. Il faut que chaque mouvement d'argent produise du profit. Pourquoi cela ? Puisque, donc il faut tout coter en bourse, en bout de compte, EDF, GDF, n'importe quoi. Pourquoi ? Puisque cela peut être évalué en bourse. Qu'étant dans un réseau international parfaitement fluide, sera la mesure objective de la valeur de toute chose. Voilà, une sorte de Crésus reporté maintenant à la monnaie électronique. Seul lieu juge dernier de la valeur de n'importe quel service, de n'importe quelle activité. Donc il y a derrière ce principe qui règle toutes ces politiques néolibérales qui ont donc ces côtés de développement possibles seulement en réseau.
Merci beaucoup. On n'a pas pu aborder dans cette deuxième partie toutes les questions qu'on aurait aimé aborder avec vous, mais c'est déjà une introduction très claire à toutes ces questions-là. Merci beaucoup, Giuseppe Longo. Vos références sont d'ores et déjà sur la page de Place de la Toile, qui est aisément accessible par le site de France Culture, www.franceculture.com.